touche pas à mon chic.
Christophe Léon.
Paul Renard.
Thierry Gauthier. Alors on se retrouve pour une nouvelle session de Touche pas à mon schiste. Hein. Vous savez, c'est un rendez-vous bimensuel, mais qui tourne à l'heure actuelle à un rendez-vous hebdomadaire, hein, parce que l'actualité a l'air de s'accélérer. Là, on se rappelle bien sûr du Mondial, c'était notre dernière émission, hein, le Mondial contre le gaz de schiste. Là, on parle plus précisément aujourd'hui, du bassin d'Alès, hein, qui est le gros sujet, on va dire, interdépartemental, hein, qui est presque régional, vu la taille du permis. Alors, on va revenir effectivement sur beaucoup de points, la convocation en préfecture des maires des communes ardéchois. Cette fois-ci, on avait parlé la fois dernière de la convocation des maires des communes du Gard. Alors là, on est sur l'Ardèche. Alors Paul, parlez-nous donc de cette convocation, hein, identique à celle du Gard.
Voilà, donc le 27 septembre dernier, donc les maires des communes du d'Ardèche donc concernées par ce permis étaient convoqués en préfecture pour information en fait. Donc les maires ont au cours de cette réunion ont évidemment réaffirmé leur opposition unanime et totale aux travaux, mais ils ont aussi et surtout confirmé la détermination de la population locale et les risques de troubles à l'ordre public en cas de travaux, quoi, en fait. Donc, il s'est passé quasiment la même chose qui s'est passé dans le Gard. C'est-à-dire que le préfet n'a ni signé, ni dit qu'il signait, ni qu'il ne signait pas, et qu'il renvoyait le dossier donc au ministère et à la présidence. Mais il y a eu, en fait, quelque chose de nouveau, quoi. C'est qu'il y avait, avec les maires, Sabine Buis, qui est conseillère à l'écologie au sein du PS, mm-hmm. et qui a un poste de conseillère, je crois, au ministère du Développement Durable. Donc, après sa sortie de la préfecture où elle a accompagné les maires, elle a déclaré, en fait, que ce permis... Étant donné qu'il a été accordé, il n'y avait pas de cadre juridique pour refuser une demande de travaux.
Mais elle intervient en tant que députée de la Drôme, je crois, c'est ça,
ou
en tant
que de l'Ardèche, ou
de l'Ardèche. Alors, elle intervient en tant que députée de l'Ardèche ou elle intervient en tant que missionnée du gouvernement?
Donc, elle nous donnait la position du gouvernement. Quoi,
d'accord.
En fait. Elle ne donnait pas sa propre position. Et donc,
il me semble l'avoir croisé justement à la journée mondiale.
Après, il y a une chose, elle nous dit que, en fait, la solution qu'imagine le ministère, c'est qu'il compte sur la bienveillance de Mouvoil pour attendre la réforme du code minier avant de commencer tous travaux, quoi. Bon, on connaît les foreurs, en plus, c'est des gens, c'est des financiers, quoi. Je pense que la bienveillance n'a rien à voir là-dedans, quoi, en fait. Les travaux ont commencé. Hein, puisque Mouvoil a envoyé la semaine dernière des hélicoptères qui ont fait des études gravimétriques sur le
Pour rester deux minutes sur cette position, oui. Vous voulez dire que l'État s'en remet finalement aux pétroliers et c'est à eux de décider ou pas finalement la diligence de leurs travaux ou d'un moratoire éventuellement. C'est ça que dit l'État.
Ce que nous a dit Sabine, c'est qu'en gros, c'est qu'il comptait sur la gentillesse des foreurs pour attendre le vote de la réforme du code minier qui interviendrait dans les 3 mois. Ceci dit, bon, ça, évidemment, ça ne nous satisfait pas. Évidemment, ça ne peut pas être envisagé comme ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est à l'État de légiférer, quoi.
Oui, et donc effectivement, vous restez sur vos positions et vous montrez bien finalement que c'est quand même, il y a un problème quand même politique au bout de tout ça. C'est-à-dire que même si les pétroliers sont dans leur droit juridique, il y a quand même de l'État, sachant que l'État est propriétaire quand même des gisements en sous-sol, il y a quand même un problème de choix politique quand même aussi.
C'est la raison pour laquelle les préfets ont fait remonter ces dossiers au ministère et à la présidence, quoi. Les préfets ne veulent pas prendre de décision à leur niveau et c'est à l'État
d'assumer ses responsabilités.
L'État peut légiférer, l'État peut geler tous les permis en attendant justement la réforme du code minier et en attendant une réétude de ces permis. L'État peut redemander des dossiers aux foreurs. C'est ce qui a été fait avec la loi du 13 juillet. La loi du 13 juillet, il y a des demandes de permis de recherche qui avaient été déposées. L'État a à voter une nouvelle loi et à demander aux foreurs de refaire leur dossier. C'est complètement possible, en fait. C'est la preuve que c'est possible.
Et même l'État peut aller jusqu'à annuler même des permis parfaitement légaux, avec bien sûr le risque de devoir indemniser les pétroliers, mais c'est aussi un choix que l'État peut tout annuler, et puis bien sûr, après indemniser, s'il faut indemniser, bien sûr.
Dans un premier temps, l'État de notre avis, devrait geler tous les permis, c'est-à-dire on en reste là, et geler toutes les études de demande de permis de recherche. Ensuite, donner de nouvelles règles, mettre en place de nouvelles règles avec la réforme du code minier et à cette aune-là, réétudier toutes les demandes de permis et dire voilà, avec les nouvelles règles, ça ne fonctionne plus, ça ne passe plus.
Vous pensez que le permis du bassin d'Alès là, est un permis symbolique et stratégique, c'est un peu le suivant des permis qui peut sauter?
Bah, c'est un peu le suivant qui peut sauter. On l'a vu, en fait, la stratégie des gouvernements qui se sont suivis, ils font sauter les permis là où la mobilisation est forte. A priori, bon, on a montré, et là, on l'a montré encore le 27, quand les maires ont été convoqués en préfecture de Privas. Il y avait 650 personnes qui les ont accompagnés jusqu'à la préfecture. Il y a eu plus de 10 000 messages de soutien. En fait, il y en avait une moitié en papier, une moitié par mail. Il y a vraiment une mobilisation très forte et c'est peut-être ce qui va faire reculer l'État. Mais l'État n'est pas très clair à ce sujet.
Ouais, l'État craint effectivement d'avoir craint pas les sondages, mais craint finalement l'impopularité de la chose.
Hein. Oui, Thierry, sur la portée symbolique de d'un retrait éventuellement de ce permis de Mouvoil, il pourrait être effectivement très fortement symbolique. Vous vous souvenez de l'abrogation des trois permis l'an passé, qui ont concerné l'Ardèche, le Gard et le Larzac. Ces trois permis ont été abrogés sur la base du fait qu'ils présentaient la fracturation hydraulique ou que leur dossier avait été interprété pour tel. Donc, ils avaient été abrogés au regard du contenu de la loi. Là, le permis de Mouvoil, lui, ne présente pas la technique de la fracturation hydraulique. Il s'en défend, bien que, dans un premier dossier, il ne s'en défendait pas. Hein. Donc, aujourd'hui, on est symboliquement dans la lutte contre ces permis litigieux. Et si, effectivement, on arrive à faire retirer ce permis de Mouvoil, on ouvre une brèche pour tous les autres permis. C'est bien pour ça que l'affaire, là, est particulièrement importante. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça que, du côté du ministère, les personnes en charge du dossier sont en demande de renseignements, en fait.
Oui, si je comprends bien, c'est le bout de votre raisonnement, avec vos menaces d'action sur le terrain. Vous voudriez que ces permis soient finalement annulés, parce qu'ils menacent presque l'ordre public, finalement, au bout du compte. Quelque part.
Les permis eux-mêmes ne menacent pas l'ordre public. En fait, ce qu'on veut, c'est arriver à faire valoir l'aspect flou de ces permis et notre interprétation. Et quand j'ai dit notre interprétation, c'est au sens très large, puisque il s'agit d'interprétation aussi de géologues, de gens qui sont pointus dans le domaine et qui nous disent clairement que effectivement, à ces profondeurs-là, dans ces couches-là de formation géologique, il n'est pas possible d'exploiter autrement que par fracturation hydraulique, qu'on est dans de la recherche dans la roche mère en fait.
Hein. Alors, si vous dites ça, c'est que effectivement, le ministère vous a contacté, soit la coordination, soit les collectifs également, à la fois des juristes, mais aussi des gens de terrain comme vous, semble-t-il, ont été convoqués au ministère pour expliquer de façon beaucoup plus claire, semble-t-il, quels sont les tenants et les aboutissants à la fois de cette lutte contre les gaz de schiste, mais aussi peut-être, vous éclairiez un peu plus peut-être nos technocrates, non ?
Oui, Thierry. Alors, bon, effectivement, le 28 septembre a eu lieu une réunion avec le directeur de cabinet du ministère du Développement Durable. Quatre juristes de la coordination et des collectifs nationaux étaient présents. Là, c'est Paul qui va vous en parler un petit peu.
Alors, Paul, dites-nous tout.
Donc, ces quatre juristes avaient été convoqués, avait été appelé à une réunion avec le directeur de cabinet donc du ministère du Développement Durable suite à des échanges de courriers qu'avaient eu donc certains d'entre eux avec ce directeur de cabinet. qu'il voulait les entendre pour toujours pour information quoi en fait. C'est des gens bon, qui sont nouveaux aux affaires en fait et qui sont nouveaux dans les ministères et qui veulent prendre le maximum d'informations pour ce dossier. Cette réunion en fait ça a été un petit peu un coup pour rien quoi en fait parce que bon les juristes qui étaient mandatés par les collectifs ont exposé en fait le point de vue des collectifs. Les gens du ministère ont pris acte, mais en fait, il n'en est rien sorti.
Il n'y a pas eu de discussion, vous l'avez dit, qui se sont engagés entre des arguments.
Ils s'engagent pas, ils prennent note, ils sont très gentils avec nous, ils prennent note, mais ils n'agissent pas, quoi. Voilà.
Il y a de la bonne volonté ou il y a un attentisme finalement prudent, on va dire.
Dans les paroles, il y a une très très bonne volonté dans les paroles et dans les actes. Pour l'instant, on est dans l'attentisme le plus total. Alors, c'est vrai que cette affaire arrive à un moment aussi où politiquement, le gouvernement a d'autres soucis et peut-être plus, au moins aussi importants. Et donc, je pense que entre le ministère et la présidence, ça ne doit pas forcément bien circuler à ce niveau-là, quoi, pour ce genre de problème, quoi.
Vous parlez du problème de la position des écologistes sur le traité européen, entre autres.
Il y a oui, ça, mais pas que les voilà. écologistes, même. Il y a des
frontistes dans le PS.
Même dans le PS. Et puis même, c'est de toute façon un moment difficile pour le gouvernement. On va pas en parler ici, mais je pense que si ce problème ne remonte pas très vite, si le problème des gaz de schiste ne remonte pas très vite à la présidence, c'est sûrement à cause de ça, quoi.
Donc, en attendant d'avoir des nouvelles, le permis qui bouge le plus dans la région, entre autres, c'est le permis d'Alès, du bassin d'Alès, dont on a parlé. Alors, il y a des choses qui se passent réellement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu, semble-t-il, cette semaine, un survol d'hélicoptère, je crois.
Voilà. Alors, il y a la semaine dernière, donc, jeudi-vendredi. Donc, les travaux ont commencé, en fait, des hélicoptères. Un hélicoptère, en fait, a survolé le territoire du permis du bassin d'Alès à basse altitude pour effectuer des relevés magnétiques et gravimétriques du terrain, ce qui est une étude préalable au passage des camions sismiques. Donc, ça veut dire que c'est parti, quoi. Cet hélicoptère, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a non seulement donc pendant deux jours circulé sur le bassin d'Alès en faisant vraiment
du quadrillage
dans tous les sens. Et lundi, donc, il a été aperçu donc au-dessus des permis de Plaine d'Alès et de Navacelles, qui sont les deux permis qui sont de chaque côté du permis bassin d'Alès.
Et qui sont par la même compagnie, détenus par la même compagnie ?
Non.
Donc, c'est intéressant, c'est que les études gravimétriques, elles sont groupées finalement.
C'est pas une compagnie pétrolière qui a le permis du bassin d'Alès. C'est Mouvel, c'est un cabinet qui regroupe quatre personnes, donc trois anciens de chez Total, un ancien de chez Elf, qui ont monté une boîte qui a 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui a demandé ce permis. Ils font effectuer les études.
Mais tout est sous-traité, bien sûr.
Les études sismiques, ils les ont sous-traitées à une société qui s'appelle Geo2X. Et la société qui effectuera les forages, elle est déjà désignée, c'est un foreur qui s'appelle Tétis, en fait. Et Geo2X, en fait, la société qui va effectuer les relevés sismiques et donc qui a très certainement envoyé ses hélicoptères la semaine dernière, a fait passer donc une petite plaquette dans les mairies concernées par ce permis, donc côté Gare et côté Ardèche. Et où elle leur explique que vraiment ces études sont toutes simples, voilà, il va rien se passer de grave, tout ça. Mais quand même, on nous dit, quand on lit bien leur plaquette, ils nous disent que les études sismiques vont leur permettre de connaître le sous-sol, donc jusqu'à une profondeur de 4 km.
4 000
mètres. Quand on sait que sur le bassin d'Alès, en moyenne, la couche du lias, en fait, la couche dans laquelle se retrouve la roche-mère, est autour de 2500 mètres. Ça veut dire qu'on va voir cette couche-là,
mais
qu'on va voir encore bien en dessous. Mmh. Et bien en dessous, il y a du sel. Bien en dessous, il y a aussi peut-être des précelles, il y a des choses comme ça. Donc, ils vont pas nous faire croire qu'ils veulent aller chercher le pétrole à 1400 mètres de profondeur s'ils font l'étude à 4000 mètres, quoi.
Alors
ils pourraient mettre des moyens inférieurs, quoi.
Ce que vous dites également, finalement, par cette réflexion, c'est que vous dites que c'est, l'argument souvent, c'est de dire, écoutez, on va aller voir ce qu'il y a. mais on n'ira pas le chercher. Donc vous dites, finalement, c'est l'hypocrisie là. C'est-à-dire que si on fait une vraie étude du sous-sol, des gisements, des capacités de gisements, c'est qu'on va les exploiter. On ne peut pas connaître un gisement et le laisser comme ça à l'abandon, ouais, et pas exploiter. Voilà.
Dites à un aveugle qui peut voir et qu'on le fera pas voir, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est impossible.
Donc voilà, c'est un des sujets d'ailleurs qui sera le plus évoqué dans nos émissions futures. Mais alors justement, c'est le moment justement ce bassin d'Alès, semble-t-il, de relancer toutes les structures que vous avez montées de VIA, hein, avec ces veilles. Et je pense que justement, c'est un test peut-être pour le collectif, hein, sur une préparation d'action sur le terrain, une veille en surveillance des véhicules, des prospections. Alors justement, on peut parler de développement de la veille pour le collectif. C'est une chose importante maintenant.
Oui, en fait, avant la veille. En fait, on a au collectif, on est en train de travailler en fait, d'organiser des journées sur des études pour dire aux gens ce qu'est une enquête publique, comment ça va se passer. Parce qu'en fait, quand il y aura une demande de travaux pour les forages, la demande de travaux pour les camions sismiques, c'est une demande qui est vraiment juste signée par le préfet. Par contre, au moment du forage, quand il va y avoir une demande de travaux, avant de signer, le préfet doit lancer une enquête publique. Donc, on va faire avec des juristes, par contre, là, des juristes confirmés, on va faire des journées d'études et d'informations sur ce qu'est une enquête publique, comment la prendre en main, comment la saboter, comment la retourner, quoi, en fait. Donc, ça, c'est un des axes, en fait, avant de passer à l'affrontement physique sur le terrain, c'est un des axes sur lequel.
L'arme juridique. Citoyenne.
Donc dans ces journées, on va aussi informer les gens sur les risques encourus en cas de manœuvre de blocage de travaux et d'engins, et on va leur rappeler toute la procédure de demande de délivrance d'un permis, et vraiment de façon à ce que le citoyen, le militant de base soit parfaitement au courant de la manière dont tout se passe et de ses droits et peut-être de ses devoirs.
Et connaisse finalement, s'il veut intervenir, les moyens juridiques d'action qu'il a en tant que simple citoyen et habitant des zones concernées.
Et ensuite, on passera à la VIA.
Voilà. Christophe, qui est plus spécialiste en études dans la VIA, parce que souvent c'est vous qui nous en parlez.
Oui. Bon, effectivement, là, on commence à être vraiment sur la brèche, quoi. La veille se développe. La veille, c'est donc
ce que c'est, voilà.
Le système de veille et de vigilance où la population participe, en fait. Hein. Alors bon, on avertit en fait les populations actuellement par des réunions publiques. Après Barjac, on a eu une réunion à Bessas. Une autre est prévue très prochainement à Beaulieu, la semaine prochaine, le vendredi 12 octobre. Ce sont des réunions qui font salle pleine, hein, dans ces petits villages. C'est impressionnant, à croire même qu'il y a plus de personnes dans la salle qu'il n'y a d'habitants dans la commune, hein, parfois.
Comme à Paris, vous faites vos défauts télémorts, non?
Non. Donc, effectivement, la vigilance et la veille se développent très fortement. Les populations sont en colère, sont inquiètes, demandent des précisions. Donc, ce sont des réunions dans lesquelles interviennent des personnes du collectif 07 ou des collectifs gardois qui ont réussi à établir une sorte d'expertise citoyenne de cette problématique.
Finalement, vous reprenez ces fameuses réunions que vous avez faites l'année dernière après Villeneuve-de-Berg et pendant Villeneuve-de-Berg et encore avant, où il y avait des réunions dans chaque village qui étaient au début du mouvement, finalement.
Voilà, c'est le même principe.
C'est le même principe.
C'est le même principe, mais là, avec une orientation résolument pour commencer à organiser des blocages.
C'était d'ailleurs, à l'époque, les questions que les gens se posaient. Ben, comment peut-on intervenir?
Effectivement. Et aujourd'hui, ben, on répond. Parce que, effectivement, on a structuré la question et... actuellement, on est en mesure de répondre aux gens, effectivement. Donc là, on continue, hein, en fait, à monter ce qu'on a appelé les pyramides d'alerte, c'est-à-dire que les gens continuent à s'inscrire. Ces listes s'agrandissent. Hein. Le déroulement d'un blocage est maintenant connu. Je ne vais pas le détailler ici, mais organisé.
Est-ce que vous croisez encore des gens qui pensent que les gaz de schiste, c'est fini, comme Ben dit? Il y a des gens comme ça qu'on trouve à l'heure actuelle, qui finalement ont été peut-être encore surpris par les déclarations de François Hollande, qui disait que les gaz de schiste, finalement, en gros, on n'en parle plus.
Alors, on en croise encore, mais je pense honnêtement que dans ces communes-là, dans les communes concernées par le projet de Mouvoil, il n'y a plus grand monde qui se pose la question.
Oui.
Par contre, effectivement, dans d'autres communes d'Ardèche ou du Gard, il y a effectivement encore des questionnements, hein, c'est clair. Par contre, là aussi, les affiches de vigilance commencent à être posées un peu de partout.
Oui, il y a des centres d'affiches également.
Il
oui.
y, y a des affiches de vigilance donc, sur lesquelles sont notés le numéro d'appel pour joindre le comité de vigilance départemental pour informer en cas de circulation de camions sismiques, etc. Voilà, donc c'est vraiment bien en place sur le Gard et l'Ardèche, qui travaillent main dans la main, on va dire, là-dessus, qui sont concernés par le même permis. Vous savez que sur la région Rhône-Alpes, il y a aussi le permis de moussière, et là, la VIA est en train de se développer aussi. Donc, en fait, il commence à y avoir une sorte de synergie, je crois, on dit aujourd'hui, où l'ensemble du travail de ces groupes fait tache d'huile
et surtout, mots, mais...
surtout donne de la force. Les travaux des uns et des autres s'ajoutent, en fait, hein, on est gagnant.
Et c'est ça, finalement, semble-t-il, votre levier d'action le plus probant, bah, c'est celui de connaître ce mouvement, d'en parler, et puis de faire que toutes ces informations remontent et que l'État s'inquiète, finalement... De conséquences, alors non pas d'environnement, semble-t-il, mais plutôt de conséquences politiques et d'ordre public, peut-être, on a l'impression.
Bah, derrière, il y a bien la question de l'environnement.
Pourtant, il y a la question de l'environnement.
Par contre, le levier, c'est effectivement cette question de trouble à l'ordre public. Le levier, c'est de dire on est dans quelque chose de légitime et on combat cette loi qui est scélérate.
Très bien. Oui, Paul, un dernier mot pour conclure.
Voilà, un dernier mot pour conclure, juste pour tout renseignement. Donc, pour les Drômois, sur Internet, non au gaz de schiste drôme.org, non au gaz de schiste drôme tout attaché.org. Pour, ça, c'est plutôt pour le Nord Drôme. Pour le Sud Drôme, non au gaz de schiste val de drôme@gmail.com. Et pour les Ardéchois, stop au gaz de schiste 07.org. Si vous voyez un camion, si vous voyez quelque chose qui vous paraît louche, un numéro de téléphone, le 06 23 66 15 51. Faites des photos, notez l'heure, notez les directions, notez tout. Appelez-nous. Bonne semaine.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Christophe Léon, merci Paul Reynard.
Merci
et puis, on se retrouve dans 15 jours. Merci.